4 militaires iraniens ont été tués en martyr par les terroristes dans la province du Sistan et Baloutchistan. De violents affrontements ont eu lieu après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde en France et en Afrique de l'Ouest, la réunion des ministres de la Défense de la CEDAW. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un officier supérieur du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, et 3 membres de la force volontaire Basij ont été tués lors d'affrontements armés avec des terroristes dans la province du Sistan et Baloutchistan, au sud-est de l'Iran, à proximité de la frontière avec le Pakistan. La base Qods de la force terrestre du CGRI a déclaré lundi 19 décembre dans un communiqué que le sous-lieutenant Mohammad Goudarzi et 3 membres du Basij, Rahim Barsh Paraki, Hamid Reza Abedi et Mahmoud Nikra, ont trouvé la mort en martyr lorsque les forces du CGRI se sont livrées à de violents échanges de tirs avec les éléments contre-évolutionnaires dans la région de Saravan, au Sistan et Baloutchistan. Le communiqué ajoute que les terroristes ont dû fuir vers le Pakistan après avoir été confrontés à la puissante présence des forces du CGRI et leur puissance de feu. La province du Sistan et Baloutchistan, qui borde le Pakistan, a été témoin de plusieurs attentats terroristes visant à la fois des civils et des forces de sécurité au cours des dernières années. Les groupes terroristes qui mènent des attaques contre les intérêts iraniens dans le sud-est et le sud-ouest du pays ont des liens connus avec un certain nombre de régimes dans la région du Golfe Persique. Le 3e forum du dialogue de Téhéran a débuté ce lundi 19 décembre à Téhéran avec la participation des représentants de différents pays du monde. L'initiative du forum de cette année est centrée sur la politique de la République islamique d'Iran envers ses voisins et son approche sur l'amitié et la confiance. L'événement réunit près de 70 officiels et représentants de groupes de réflexion et de centres de recherche de 36 pays. Les conférenciers d'ouverture sont des personnalités notables, dont le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, l'ancien premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Mogada et le chef du Conseil stratégique des relations extérieures de l'Iran Kamal Kharazi. Des chefs de groupes de réflexion nationaux, des ambassadeurs et des chefs d'agences étrangères installés à Téhéran y participent également. Au cours de 4 réunions de ce forum qui suivront les discours d'ouverture, les participants discuteront des derniers développements en Asie de l'Ouest, de la sécurité dans le Golfe Persique, des connexions régionales, de la sécurité énergétique, de la crise ukrainienne et de ses conséquences régionales et mondiales et de la perspective de paix et d'un gouvernement global en Afghanistan. Les premières et deuxième éditions du Forum du dialogue de Téhéran, qui se sont tenues en 2019 et 2020, ont constitué une plateforme importante d'interaction et de communication entre responsables politiques et penseurs dans le domaine des études internationales et régionales, ainsi que des discussions sur l'Asie de l'Ouest. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du Nicaragua ont signé un plan global pour améliorer la coopération bilatérale. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue nicaraguayen, Denis Moncada Golindres, ont signé le document dimanche 18 décembre à Téhéran. Plus tôt dans la journée, les hauts diplomates iraniens et nicaraguayens ont discuté des moyens permettant de renforcer les relations bilatérales et des derniers développements régionaux et internationaux. Au cours de la réunion, M. Amir Abdollahian a salué le bon niveau des liens entre Téhéran et Managua, en particulier dans le domaine politique, et a déclaré que les deux parties devraient accorder plus d'attention au renforcement de la coopération commerciale et économique. Téhéran est prêt à renforcer les liens mutuels dans divers liens économiques et commerciaux au plus haut niveau, a-t-il ajouté. Le haut diplomate iranien a déclaré que le document signé entre les deux pays est un plan nouveau et stratégique pour renforcer les relations. Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères a pour sa part salué les liens amicaux de son pays avec l'Iran et leur coopération bilatérale dans leur cercle international. Colin Rest a exprimé l'espoir que le plan nouvellement signé et la première session de la commission mixte Iran-Nicaragua renforceraient encore les liens dans un proche avenir. M. Amir Abdollahian a rencontré Colin Rest en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre. En septembre 2021, le président iranien Ebrahim Raisi s'est entretenu au téléphone avec son homologue nicaraguayen Daniel Ortega et a souligné la nécessité d'une coopération étroite entre le Nicaragua et d'autres États d'Amérique latine sur la scène mondiale pour déjouer les sanctions américaines contre des nations indépendantes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné l'attaque terroriste qui a coûté la vie à plusieurs effectifs de la police irakienne à Kirkouk et a compati aux douleurs des familles des victimes. Au moins 12 policiers irakiens auraient été tués dans un attentat à la bombe en bordure de route par des résidus du groupe terroriste Daesh près de la ville de Kirkouk, dans le nord de l'Irak. Citant deux sources de sécurité qui ont requis l'anonymat, les médias irakiens ont rapporté dimanche 18 décembre que l'attentat a eu lieu après qu'une bombe a frappé un convoi de la police fédérale près du village de Safra, district d'Al-Riyaz, au sud-ouest de Kirkouk. Un convoi composé de plusieurs patrouilles de la police fédérale effectuait une mission à proximité de villages agricoles à l'est du district de Riyadh à Kirkouk. La patrouille a été attaquée par un engin explosif très puissant, suivi de coups de feu causant la mort de 12 policiers, dont un officier, a déclaré le portail d'information irakien Baghdad Aliyah. Les sources ont indiqué que deux autres policiers ont été grièvement blessés dans l'attentat à la bombe, ajoutant que deux terroristes ont été liquidés lors de l'échange de tirs entre les policiers irakiens et les éléments terroristes de Daesh. Les sources ont souligné que les forces de sécurité irakiennes ont lancé une vaste opération de ratissage après l'attaque pour nettoyer la zone du reste des éléments du groupe terroriste Daesh. Mercredi 14 décembre, une bombe déposée en bordure de route a frappé un véhicule militaire et tué trois soldats irakiens dans des terres agricoles au nord de Bagdad. Il n'y a eu aucune revendication immédiate pour l'attentat à la bombe dans la région. L'Irak a déclaré la victoire sur Daesh en décembre 2017, après une campagne militaire antiterroriste de 3 ans, en profitant du soutien de son voisin iranien. Les résidus de Daesh, cependant, continuent d'organiser des attaques sporadiques à travers l'Irak et tentent de se regrouper pour déclencher de nouvelles vagues de violence. Daesh a intensifié ses attaques terroristes en Irak depuis janvier 2020, lorsque les États-Unis ont assassiné le général Qassem Soleimani, commandant antiterroriste iranien, et le commandant adjoint de Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandes, près de l'aéroport international de Bagdad. 19 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne dans un tunnel de la province afghane de Parvan, dans le nord-est du pays, a déclaré dimanche le directeur adjoint de la Direction provinciale de la santé, Abdullah Afghanmal. Il a indiqué à la presse qu'après l'explosion, 19 corps et 32 blessés avaient été transportés vers des hôpitaux du chef-lieu de la province, Charikar, et des centres de soins avoisinants. Le porte-parole de l'administration provinciale de Parvan, Hikmatullah Shamim, a indiqué que le camion-citerne avait pris feu à l'intérieur du tunnel de Salang, samedi soir, tuant et blessant plus d'une vingtaine de personnes. Le responsable a également fait savoir que l'incendie avait été éteint et que le tunnel avait rouvert à la circulation. Cependant, des locaux présents sur place estiment que le nombre de victimes pourrait être plus élevé que ce qui a été annoncé. Le tunnel de Salang, situé à 3400 mètres d'altitude et reliant la capitale afghane, Kaboul, aux 8 provinces du nord du pays, est une voie de circulation essentielle en Afghanistan. Peu après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde du Qatar, quelques débordements ont éclaté dans les rues de plusieurs villes françaises. Une défaite sur le terrain qui a échauffé plusieurs esprits dans les rues. À l'issue de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, dont l'équipe de France est sortie perdante, plusieurs villes françaises sont le théâtre de débordements ce dimanche soir. À Paris, l'avenue des Champs-Élysées, lieu traditionnel de célébration des victoires des Bleus, a laissé place à quelques débordements après le départ d'une partie de la foule en fin de match. Des tirs de mortiers et d'artifice ont visé des policiers en début de soirée, témoigne le journaliste Clément Lannon sur Twitter. Sur ces images, on peut voir un important groupe de policiers appuyés par des véhicules montés en ligne face à la foule. La préfecture de police de Paris avait prévu un important dispositif de sécurité ce week-end, mobilisant plusieurs milliers de policiers et gendarmes sur la capitale et dans l'Île-de-France. La vigilance était renforcée dans le secteur des Champs-Élysées, avec notamment une circulation limitée avec le match et jusqu'au milieu de la nuit. De violents affrontements ont eu également lieu, entre autres, à Lyon, à Grenoble et à Bordeaux. La rencontre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lieu du 18 au 19 décembre en Guinée-Bissau. Il est urgent de rendre opérationnelle la force en attente de la CEDEAO, FAC, car elle peut être utilisée pour lutter contre le terrorisme et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans la région lorsqu'il est menacé, a souligné dimanche 18 décembre le général Biag Nantam, chef d'état-major de la République de Guinée-Bissau et président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Le général Biag Nantam a fait cette déclaration à Bissau lors de la session extraordinaire du comité des chefs des opérations des états-majors des armées ouest africaines, indiqué dans un communiqué dimanche, la CEDEAO, précisant que cette session extraordinaire se tient en prélude d'une réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO prévue le 19 décembre à Bissau. Le rapport de la réunion sera soumis à l'examen des chefs de la Défense et aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Pour rappel, c'est lors du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation ouest-africaine tenu le 4 décembre dernier à Abuja, au Nigeria, que les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont annoncé le vœu de créer une force régionale prête à intervenir non seulement contre le terrorisme, mais aussi en cas de coup d'État. Les attaques terroristes se multiplient au Sahel, en particulier au Mali. Et en ce moment où la menace étend, le Sahel a besoin d'urgence d'un sursaut collectif. Le G5 Sahel, créé en 2014 pour coordonner l'action des autorités de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, n'a cessé d'être affaibli ces derniers mois. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Crise énergétique, la facture de l'Europe dépasse 1 000 milliards de dollars. L'Europe a été touchée par environ 1 000 milliards de dollars en raison de la flambée des coûts de l'énergie. Alors que les gouvernements ont pu aider les entreprises et les consommateurs à absorber une grande partie du coût avec plus de 700 milliards de dollars d'aide, selon le groupe de réflexion bruxellois Bruegel, un état d'urgence pourrait durer des années. Avec des taux d'intérêt en hausse et des économies probablement déjà en récession, le soutien qui a amorti le coût pour des millions de ménages et d'entreprises semble de plus en plus inabordable. La capacité budgétaire du gouvernement est déjà mise à rude épreuve. Environ la moitié des États membres de l'Union européenne ont une dette dépassant la limite du bloc de 60% du produit intérieur brut. Une ruée pour remplir le stockage l'été dernier, malgré des prix presque records, a pour l'instant atténué la pression sur l'offre, mais le temps glacial donne au système énergétique européen son premier véritable test cet hiver. La semaine dernière, le régulateur du réseau allemand avertit qu'il n'y avait pas assez de gaz économisé et que 2 des 5 indicateurs, y compris les niveaux de consommation, étaient devenus critiques. Avec un approvisionnement serré, les entreprises et les consommateurs ont été invités à réduire leur utilisation. Le mois dernier, le régulateur allemand a averti qu'une politique d'économie de gaz pour les ménages et les petites entreprises allemandes avait échoué dans sa première phase. L'Allemagne doit réduire sa consommation de gaz d'un cinquième pour éviter une pénurie paralysante cet hiver, a déclaré son principal régulateur de réseau, alors que les entreprises et les ménages se préparent à la plus grande crise énergétique d'Europe depuis une génération.